travers d'une petite vidéo que le département Move Kids a préparée. C'est une petite surprise pour les mamans ce matin. C'est parti.
Même les plus difficiles. C'est mon modèle parce qu'elle s'en sort toujours et partout. Et pour finir, bonne fête des mères.
Coucou, coucou, maman chérie, t'es la meilleure des mamans. Je te souhaite une bonne fête des mères.
Bonne fête des mères.
Bonne fête, maman, que Dieu te bénisse.
Je te souhaite une joyeuse fête des mères.
Maman, on t'aime et tu es gentille.
Elle est belle, elle est gentille, elle n'est jamais méchante, elle me fait des jolies choses.
Je t'aime très fort, maman, jusqu'à l'infini, de l'infini, de l'infini, jusqu'au monde entier.
Je t'aime, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête.
Bonne fête, fête, maman.
Bonne fête, maman, je t'aime.
Bonne fête, maman, bisous, que Dieu te bénisse.
Moi, je vais faire un gros bisou à ma maman et que aussi je l'aime très fort et de tout mon cœur.
Merci de me supporter tous les jours.
Bonne fête, maman.
Bonne fête, maman.
Bonne fête, maman, je t'aime.
Bonne fête, maman. Merci pour ce
que tu as fait pour nous.
Maman, tu es la plus belle des mamans. Jésus t'aime de tout mon cœur.
Bonne fête, maman. J'espère que tu vas bien. Bisous.
Bonne fête des mères.
Bonne fête, maman.
Je t'aime très fort.
Bonne fête, maman, t'es la meilleure des mères. J'aime de tout mon cœur.
Bonne fête, maman.
Vous allez voir au travers de la parole de Dieu ce matin combien la maman a cette place, non seulement dans le foyer, mais cette place au niveau de l'Église, au niveau de la vie et des plans divins. Un écrivain a dit ceci: la fête des mères est un prétexte, car on fête toute l'année sa maman. Et c'est vrai qu'on fête toute l'année sa maman, mais la fête des mères est un prétexte, l'occasion de pouvoir peut-être marquer le coup, mais en fait, on doit marquer le coup toute l'année au travers de nos mamans. Et si ma maman voit la vidéo ce matin, ben, je l'embrasse bien fort, parce que c'est notre maman, et que c'est celle qui nous a donné la vie, finalement. Dans la parole de Dieu, dans Proverbes, chapitre 31, verset 10, il est dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Et ça, c'est formidable de voir, déjà le verset 28, « Les filles se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. » Je crois que la Bible ne se trompe pas, puisque le mot « mère » se retrouve plus de 300 fois dans les Écritures. On voit que la maman est honorée, la maman, elle est reconnue dans la parole de Dieu. Et aux yeux de Dieu, la femme a de la valeur à tel point que l'Éternel lui a donné le pouvoir d'engendrer la vie. Dieu a donné le pouvoir à la femme d'engendrer la vie. L'exemple en est donné à plusieurs reprises, mais particulièrement dans Luc chapitre 2, la référence au verset 6, il dit « Le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. » Si vous regardez bien l'histoire de Jésus, Jésus a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Il a été conçu miraculeusement. Cela veut dire que Joseph n'a pas connu Marie parce qu'il y a eu le miracle de Dieu. La parole de Dieu nous montre aussi que Jésus s'est élevé au ciel miraculeusement, Actes chapitre 1er, verset 11. Et de la même manière qu'il est parti vers le ciel, il reviendra nous chercher. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais il est venu au monde naturellement. Dieu a permis qu'il soit au monde naturellement. Marie accoucha comme chacun d'entre nous, sommes nés par le ventre de notre maman. Jésus grandit avec ses frères, comme nous avons grandi avec des frères et sœurs, si nous en avons. Elle a eu 9 mois de grossesse. Marie a finalement eu 9 mois pour devenir mère et maman. C'est-à-dire que Dieu a permis que Jésus naisse naturellement alors que c'est le Dieu du miracle au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il a voulu faire comme nous. Il a grandi comme nous. Il est né, il est devenu petit, il a grandi, il a évolué comme nous. Il a été éduqué comme nous. Quelqu'un a dit être maman est le seul métier à plein temps qui vient sans diplôme à acquérir, sans études à valider, sans réelle formation. C'est-à-dire que la maman apprend sur le tas. Quand bien même, elle a sa maman, elle a ses amis, elle a ses proches qui viennent le conseiller. À un moment donné, elle va être confrontée à la vie, à des situations. Elle ne pourra pas appeler sa mère, ne pourra pas appeler la grand-mère, ne pourra pas appeler ses amis. Elle va grandir parce que Dieu aura mis dans le cœur de cette maman ce côté naturel pour élever, pour conseiller, pour entourer, je dirais, cet enfant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être maman, c'est dans l'ADN d'une femme. Et les enfants ne s'y trompent pas. Hein. Quand les enfants sont souffrants, qui ils appellent en premier? Quand un enfant se perd dans un magasin, est-ce que vous croyez qu'il crie papa? Ça nous embête, nous les pères. On ne comprend pas pourquoi. Bon, ça, pourquoi toujours maman? Parce que c'est dans l'ADN d'une mère. Parce qu'il y a eu 9 mois, je dirais, d'attente. Il y a eu 9 mois de protection d'une mère. Ça ne trompe pas. Il y a la marque de Dieu derrière cela. C'est quelque chose de spirituel, finalement. Et puis, on le voit dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Pose la question, parce que c'est complètement fou. Pourtant, il y en a qui le font dans ce monde, parce qu'ils sont dans le péché. Mais dans l'absolu, une mère n'abandonne jamais ses enfants. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Et regardez ce qu'il est dit. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Écoutez-moi bien, parce que ce texte, il est, je disais tout à l'heure au premier culte, c'est une bombe. Dieu est en train de nous montrer par là son amour absolu à notre égard. C'est-à-dire, cet amour absolu, c'est d'avoir donné son Fils à la croix du calvaire. C'est quelque chose d'incroyable qui nous dépasse. L'amour de Dieu ne peut pas se quantifier. Et il n'y a rien qui peut être comparé à l'amour de Dieu, quoique Jésus, lui, fait une comparaison. Dieu fait une comparaison en disant que ce texte, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Il fait une comparaison entre une mère vis-à-vis de son enfant. Il y a une telle proximité, il y a un tel amour, il y a un tel attachement que Dieu fait le même parallèle entre nous et lui. Pourquoi ? Parce que l'amour d'une mère à l'égard d'un fils, d'une fille, c'est quelque chose qui ne peut pas être calculé, qui ne peut pas être compris par un homme. Parce que c'est divin. C'est pour ça que Dieu a permis que Jésus naisse par le ventre de Marie, pas naturellement comme chacun d'entre nous. Parce que derrière, il y a quelque chose de spirituel dans l'amour d'une mère. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui se ressent. La femme est l'âme de la maison. Si la maman ou la femme ne va pas bien, la maison et la famille ne va pas bien. C'est elle qui crée l'atmosphère dans la maison. C'est elle qui donne le parfum dans sa maison, qui donne la couleur, qui donne cette ambiance. La maison, je dis souvent que la maison, c'est son territoire. Je fais souvent cette comparaison, je donne cette explication parfois dans les cours pour les couples. Je dis souvent que le mari, c'est le toit de la maison. Il est là pour protéger l'épouse, les enfants, il est en protection, il est au-dessus de la mêlée, puis il est là à veiller, à surveiller. C'est le toit de la maison, mais à l'intérieur, l'épouse, c'est le pilier. Retient la maison, elle est chez elle. Elle est là pour donner un climat à cette maison, une fraîcheur à cette maison, pour mettre vraiment cette bonne ambiance à cette maison. Quand le mari sort du boulot, qu'il rentre à la maison, il sent que tout a été préparé, fait, nettoyé, lavé, tout a été organisé, les enfants ont été éduqués. Il y a toute une ambiance qui fait que quand il rentre à la maison, il sent qu'il y a une présence qui est divine, une présence spirituelle, une présence d'une épouse. Ça, c'est le pilier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cela. Salut frère. Imagine-toi que ton épouse parte en retraite spirituelle pendant une semaine. Tu te retrouves seul à la maison avec les bambins. Waouh, j'en vois déjà qui commence à sourire là. On ne sait pas si c'est un sourire de joie ou de peur, de crainte. Non, j'espère que ça ne va jamais arriver. Imaginez à ce moment-là, de suite, ce qui vous passe à l'esprit. Il y a le mot vaisselle, il y a le mot ménage, il y a le mot lit, douche aux enfants, repassage, et j'en passe. Et là, subitement, vous arrivez à midi, vous avez les enfants qui ont les crocs qui sortent de la bouche, et vous dites « j'ai faim, papa, j'ai faim, maman ». Et vous avez toute la meute qui est là et qui ont besoin de manger. Et là, vous êtes dit « mince, moi, je n'ai pas prévu à manger ». Et de suite, vous cherchez la première adresse de chez McDo. À partir de là, vous avez votre cerveau qui change complètement. Les pizzas congelées deviennent subitement le plat principal. Et puis, de suite, vous avez les petits plats qui sont faits William Sorin. Vous voyez, tout ce qui est déjà préparé, vous allez le mettre sous la table. Si votre épouse aurait mis ça sur votre table, elle dit « mais c'est quoi ça? Tu n'as pas fait à manger ?» Mais là, bizarrement, c'est bon pour les enfants et pour vous. Et à ce moment-là, au même moment, vous êtes en train de prier pour demander au Seigneur de ramener rapidement votre épouse à la maison. Alors qu'étant jeune et prière, elle perd 5 kilos, vous en prenez 10. Seigneur, merci pour les épouses que nous avons. Alléluia. Je vous dis, c'est l'expérience qui parle. Hein. Je vous le dis, c'est l'expérience. Oh, j'ai dit, Isabelle, ne pars pas trop en jeûne et prière. C'est un cauchemar après la maison. Je rigole. Une maman a dit un jour, nous avions des théories et puis ensuite, nous avons eu des enfants. Parce que on est fort avec les théories. Hein. Tant qu'on n'a pas d'enfant, on dit « maman, je ne ferai jamais comme ça. Oh, j'ai vu cet enfant de telle famille. Moi, tu verras, moi, je vais le visser, cet enfant. Moi, le mien, il va être comme ça. Tu vois, il ne va pas faire n'importe quoi. » Puis vous apercevez que finalement, c'est lui qui vous visse. Tout ce que vous avez mis en théorie, en pratique, c'est l'opposé. Et j'aime bien cette phrase, parce que c'est une phrase d'une mère qui a pas mal d'expérience qui a dit cela. Une maman, c'est précieux. Et c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question « mais qu'est-ce qu'une maman ?» C'est une femme qui prie d'abord avant tout. C'est une femme qui prie. Et je disais tout à l'heure dans ma prédication, je bénis Dieu pour mon épouse qui est une femme de prière. Elle se lève tôt le matin parce qu'elle va commencer le travail à 7h30, 8h et puis jusqu'à 18h le soir. Alors le matin tôt, elle est là dans la prière. Je sais qu'elle prie pour moi. Elle prie pour les enfants. Elle prie pour son foyer. Elle consolide le pilier qu'elle est dans cette maison. Et c'est ça la valeur d'une épouse. Combien de frères ont pu me partager cela aussi, des femmes de prière, nos épouses. C'est d'abord une femme de prière. Anne, c'est l'exemple que nous retrouvons dans les Écritures, dans 1 Samuel, au chapitre 1er. Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle est restée longtemps en prière. C'est une femme qui était en souffrance, parce que quand on regarde le contexte, Anne était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant alors qu'il y avait l'appel dans son cœur, l'appel d'enfanter, de donner la vie, mais elle ne pouvait pas, elle était complètement bloquée, elle était là. Et tout à l'heure, j'ai eu un témoignage d'une sœur à la sortie du premier culte. Elle me disait, vous savez frère, pendant 9 ans, j'ai fait la prière de Anne. Et à la 9e année, Dieu m'a donné un enfant. Alors je voulais vous le partager parce que ça, c'est encourageant. Cette femme, Anne, elle était en prière. Déjà, elle se préparait alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était déjà une femme de prière. Elle était une femme passionnée dans l'intercession parce qu'elle savait qu'elle était en train de préparer, de consolider un futur foyer. Et il est dit dans ce passage, dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre suivant, Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel car je me réjouis de ton secours ». Cette femme n'avait pas de haine, n'avait pas d'animosité à l'égard de Dieu parce qu'elle était stérile. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse ce matin. Peut-être au milieu de nous, nous avons des sœurs qui sont stériles. Et peut-être que dans ton cœur, c'est créé une sorte d'animosité. Tu es même troublé dans ta foi chrétienne. Tu n'arrives pas à lire les Écritures correctement. Chaque fois que tu pries, tu repenses à ça. Tu as une certaine aigreur au plus profond de ton cœur. Tu en veux à Dieu. Tu n'arrives pas à lire ce texte de 1 Samuel parce que tu te retrouves et ça te fait mal. Et je voudrais que tout à l'heure nous puissions prendre du temps pour prier pour cela. Mais te dire avant toute chose, retire toute animosité. Retire toute racine peut-être d'amertume. Anne pria et dit, « Mon Sauveur, je me réjouis en mon Sauveur l'Éternel, car je me réjouis de ton secours. » Cette femme, elle était remplie de reconnaissance à l'égard de Dieu, malgré qu'elle ne soit pas encore mère, malgré qu'elle n'a pas pu enfanter. Et on savait à l'époque combien c'était important d'avoir un enfant, d'être parce qu'on était reconnu dans la société. Et tant qu'elle n'avait pas cet enfant, elle avait l'impression d'être inutile. C'était une véritable souffrance pour elle. Mais elle a compris la valeur de la prière. Et la prière est l'arme la plus puissante à votre disposition pour couvrir vos enfants de cette protection, frères et sœurs. Votre implication dans la bataille spirituelle se joue autour de la prière. On dit souvent que derrière tout grand homme de Dieu, il y a une mère à genoux. Une maman à genoux. À intercéder pour son enfant, chercher la face de Dieu. Alors qu'est-ce qu'une maman ? Deuxièmement, une maman, c'est une femme qui aime. Vous allez me dire, c'est naturel. Non, là, par contre, c'est surnaturel. Je reprends le texte d'Ésaïe 49:15. Il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Il y a quelque chose de très fort dans ce texte, de très lié à l'amour, mais on va un petit peu plus loin. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, toujours dans la suite, il dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai ». Ce texte est fort, pourquoi ? Parce que je le mets en parallèle à ce que je viens de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que Dieu nous montrait son amour à notre égard et il mettait ce parallèle avec cette mère à l'égard de ses enfants. Cet amour, il mettait cette comparaison. Et là, il met une deuxième comparaison. Que, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et on sait que Dieu est celui qui console de manière extraordinaire. Ben, une mère, à son degré, à elle, avec ses compétences à elle, avec l'onction de Dieu dans sa vie, elle est capable de consoler un homme. Et Dieu fait cette même comparaison, ce même parallèle. Comme je suis capable de vous consoler, une mère, elle aussi, elle console. Et ça nous dépasse. La consolation d'une mère, pas le même qu'une consolation d'un père. Il y a comme quelque chose, comme une marque particulière. Elle aime, elle console, elle n'oublie pas, parce que l'amour est inconditionnel. Nos enfants vont peut-être nous décevoir, c'est inévitable parfois, et pourtant nous les aimons, avec leurs défauts, avec leur caractère. Toujours émerveillé, toujours surpris. J'ai regardé récemment à la télévision une mère qui expliquait aux journalistes, elle disait « Mais je sais que mon fils est un monstre aux yeux des hommes, qu'il a tué, qu'il a massacré plusieurs personnes, qu'il a été vraiment violent et méchant toute sa vie, mais je l'aime, c'est mon fils ». Ça nous dépasse. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de divin. Et c'est ça, une maman. Qu'est-ce qu'une maman ? Ben, une maman, c'est une femme qui accepte de voir grandir ses enfants. Waouh ! Dans Samuel, chapitre 2, verset 19, il nous a dit que sa mère, Anne, lui faisait chaque année une petite robe. Chaque année, sa maman adaptait la robe en fonction de la grandeur de son fils. Elle acceptait de voir grandir son fils. Ce qui n'est pas toujours évident pour une maman. Pour une maman qui a gardé 9 mois dans son sein cet enfant, qui l'a vu grandir. Elle a prié pendant des années pour lui. Et puis elle choyait, elle a consolé, elle a bordé. Puis il a commencé à grandir, à devenir un petit peu plus autonome. Et là, la mère commençait un petit peu à souffrir, mais elle comprend que quelque part, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle aille plus loin. Et là, il y a quelque chose de délicat. Et là, Anne avait compris que son enfant grandissait, année après année. La maman de Samuel, chaque année, revenait le voir avec une nouvelle tenue, parce qu'il avait grandi. La maman est là pour équiper ses enfants avant leur envol, avant leur venir. Et vous savez, quand il commence à vous dire « Bon papa, je voudrais passer mon permis », là vous prenez la claque de votre vie. Parce que vous ne l'avez pas vu grandir. Vous avez vu un garçon ou une fille qui avait 14 ans, 15 ans, peut-être un peu moins, et puis du jour au lendemain, il pense déjà à passer son permis parce qu'il a 18 ans. Et quand il vient vous dire « Voilà, on va se marier », là c'est la fin des haricots. C'est la déprime. Attention, Jonathan, hein. Je te surveille. Il est derrière la caméra. Vous comprenez ? Père, ça va à la limite, mais une maman. Pas facile parce qu'on a vu parfois Au niveau de l'équipe pastorale, on peut vous le confirmer, on a vu parfois des couples, des jeunes couples se marier, mais dont les parents n'ont pas voulu lâcher prise. Ils n'ont pas voulu voir grandir leurs enfants. Quelque part, ils ont même reproché aux gendres d'avoir volé leur fille, ou l'inverse. Se retrouver dans des tensions parce que la maman n'a pas voulu, à un moment donné, couper le cordon ombilical. Pourtant, la connexion est toujours là, mais il y a quelque chose qui n'est plus spirituel, là, il est humain. Et c'est là où nous avons besoin d'obéir à Dieu. À comprendre à un moment donné que cet enfant que nous avons ne nous appartient pas. Et c'est ça qui est le plus dur. À un moment donné de sa vie, la maman devra comprendre que cet enfant, ben, il a été prêté par Dieu. Et c'est ce que Anne dit dans sa prière à un moment donné. Confie Samuel son fils, alors qu'elle était lasse, qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a compris à un moment donné, elle a lâché prise, parce que peut-être que ça venait de là, je ne sais pas. La Bible ne nous le définit pas, mais peut-être qu'à un moment donné, elle voulait garder cet enfant pour elle. Elle dit, c'est le mien, je vais le garder toute ma vie. Il restera à la maison toute ma vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle comprenne que cet enfant qui va sortir de son sein, eh ben, ne lui appartient pas. Ça, c'est une maman qui est très forte, une maman qui est capable de pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Et c'est là où tu as besoin peut-être, et il y a peut-être une maman au milieu de nous qui se retrouve devant ce problème, où tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'arrives pas à concevoir que cet enfant qui est à toi n'est pas forcément totalement, complètement à toi, mais qu'il appartient à Dieu. Et que Dieu a permis de la prêter pour que tu l'éduques, que tu l'aimes, que tu l'entoures, que tu le consoles, que tu le fortifies, que tu l'amènes plus loin, que tu le transportes après dans cet avenir. En veillant toujours sur lui, pas en le surveillant, en le veillant sur lui. Et puis, chaque moment où il aura besoin de toi, d'être prêt à l'aider, de le soutenir, de l'écouter, d'être attentionné. Puis il y a certains moments de la vie, il ne fera peut-être pas forcément toujours cas de toi, mais tu seras toujours là. Ça, c'est ça une maman. C'est une femme qui accepte de voir grandir ses enfants, et ça c'est formidable. Quelques mères célèbres par rapport à cela, Jochébède qui est mère d'Aaron, de Moïse, de Myriam, c'est une femme de courage pour avoir sauvé son fils Moïse d'une mort certaine. Parole de Dieu nous montre que, et là, que Dieu bénisse le cœur de ces femmes dont les enfants sont en danger, qui luttent à genoux pour eux, parce qu'il y a des enfants qui passent des moments difficiles, parce qu'ils sont agressés à l'école, parce qu'ils sont tombés peut-être dans la drogue, parce qu'ils sont peut-être dans la maladie, parce qu'il y a peut-être des conflits internes, et on ne peut pas les aider forcément, directement. Alors, nous sommes là en prière, il y a combien de mamans qui sont là dans leur coin, seules, à pleurer, en larmes, parce qu'il y a un enfant qui souffre. Des fois, ces mêmes mères ne vont pas en parler au mari qui travaille toute la journée et quand il rentre à la maison, et le mari dit « Alors chérie, ça va bien ?»« Oui, oui, ça va bien. » Elle s'est essuyée les larmes, elle s'est bien séchée, elle s'est maquillée pour pas montrer la souffrance et pour pas donner cette souffrance à son mari. C'est ça une mère. Et c'est pour ça qu'une mère, c'est précieux. Il y a Eunice et Louis, mère et grand-mère de Timothée. Timothée avait reçu cette foi sincère en héritage et transmis par sa maman et par sa grand-mère. Il était là porté parce qu'il avait un ministère, il avait un appel. Alors, il a été porté finalement dans son ministère et dans l'œuvre dans laquelle il a été appelé. Anne, mère de Samuel. C'est un enfant qui avait été donné par Dieu. Et puis, il nous a parlé aussi de Marie, mère de Jésus, la bienheureuse au service de Dieu. Elle s'est mise au service de Dieu pour enfanter ce fils finalement. C'est ça l'image d'une mère. Elle a été au service de l'Éternel pour enfanter ce fils. Elle a éduqué, elle a encouragé, elle lui a apporté tout l'amour, toute l'affection d'une mère. Et puis à partir de là, elle dit, allez mon fils, vas-y, avance. Parce que t'es pas ma propriété. Et ça, c'est vraiment l'image d'une mère à l'égard de son fils. Andre Johnson, président des États-Unis, a dit ceci, la mémoire de ma mère et ses enseignements ont été, après tout, le seul capital dont j'ai disposé pour affronter la vie. Et ce capital m'a fait devenir ce que je suis, président des États-Unis. Il avait besoin d'une mère. Et quel que soit l'âge, hein, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, une maman reste une maman. On restera toujours son petit. Amen. On restera toujours son petit. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça que la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 20, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Il y a quelque chose de très important parce que c'est un commandement. Hein. Tu connais les commandements de Dieu. Honore ton père et ta mère. Dieu nous ordonne d'honorer nos parents. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse qui, pour moi, quelque chose d'important pour, et c'est le témoignage que nous avons en tant que chrétiens, c'est prendre du temps avec nos parents avant que les regrets s'installent. J'ai pas envie à un moment donné de ma vie, alors que si mes parents venaient à partir avant moi, de me retrouver devant la tombe de ma mère en disant si j'avais su, j'aurais pris plus de temps avec toi. Et je crois que nous avons, nous en tant que chrétiens, un témoignage à rendre à nos parents. Savoir prendre du temps avec eux. S'ils sont loin, prendre le téléphone et de temps en temps les appeler, avoir un échange, un partage avec eux. Je crois que ça c'est très important. Ça fait partie de l'honneur que nous devons apporter à nos parents. Honore ton père et ta mère. Savoir prendre du temps, disposer du temps, plage de temps, même surtout s'ils viennent très rarement à la maison, peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans, savoir se trouver une plage de temps et s'ils viennent à la maison, qu'ils puissent venir au moment où toi, tu seras disponible pour eux. Ça, c'est important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11, il est dit « Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme sans la femme. L'un ne va pas sans l'autre. » C'est-à-dire qu'il y a une complicité entre nous. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Et c'est-à-dire que la femme a besoin de l'homme, mais l'homme a besoin aussi de la femme. On est ensemble. On devient une seule chair, nous dit la Bible. On est indissociables. Et c'est la raison pour laquelle il y a un manque quand il y a personne, quand elle n'est pas là, quand elle est en déplacement, quand il y a comme quelque chose qui manque à la maison. Et ça, c'est important de réaliser cela. De toute façon, il suffit qu'elle parte pour quelques jours pour s'en apercevoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une maman, c'est précieux. Je voudrais ouvrir une parenthèse aussi au fait d'être maman au service de Dieu. J'ai une sœur qui me partageait cela il y a quelque temps, alors qu'elle fait de l'évangélisation de partout en France et à l'étranger. Et on s'était retrouvés dans un déplacement avec mon épouse. Et là, elle me partage, elle me dit, tu vois Didier, je fais de l'évangélisation. Dieu m'a appelé à l'évangélisation et il m'est tombé quelque chose dessus. Voilà, j'ai rencontré un ami, un chrétien, et puis il y a eu un coup de foudre et on s'est mariés. C'était pas prévu dans mon programme. Et suite à ce mariage, alors que Dieu nous avait conduit à ce mariage, de suite après, ce qui n'a pas été prévu, c'est que je tombe enceinte. Et elle s'est retrouvée là, elle me dit, mais je suis frustrée parce que j'ai reçu l'appel dans le service de Dieu, et voilà qu'il me vient le mariage, maintenant je suis enceinte, je vais avoir un enfant, et quelque part, j'ai l'impression de rater le but, de rater le coche, de rater la vision dans laquelle le Seigneur m'a appelé dans le service de Dieu. Et peut-être que tu te retrouves dans ce même schéma ce matin. Te retrouver à dire, mais je vais pas me marier, ou peut-être plus tard, on verra bien. Je vais faire attention dans mon programme, dans ma vie, dans la construction, dans mon développement de mes sentiments, parce que je veux servir le Seigneur. Et peut-être que tu as des craintes même d'avoir un enfant, et tu dis à ton mari, non, plus tard, parce que j'ai envie de servir Dieu dans tel domaine. Il y a peut-être des frustrations par rapport à ça. Et cette sœur, alors qu'elle était en train de me partager cela, j'ai dit non, bien au contraire. Je crois que le Seigneur est en train d'ouvrir l'espace, de donner davantage de compétences pour l'évangélisation. Parce que quand tu vas parler maintenant à une maman, tu sauras quoi dire, parce que toi tu as un enfant. Quand tu vas te retrouver devant un couple en difficulté, alors que tu vas prier Jésus, que tu vas intercéder pour eux, que tu vas leur apporter une parole de connaissance, tu sauras quoi dire parce que tu es marié. Au contraire, le Seigneur est en train de développer ton ministère, d'ouvrir un champ d'action encore plus grand dans l'appel dans lequel il t'a appelé. Et je voulais juste que tu comprennes ça, mon frère, ma sœur, ce matin, que ce ne soit pas un frein d'aller plus loin, d'avoir des enfants, de te marier, d'avancer dans l'œuvre de Dieu, parce que finalement, le Seigneur t'a appelé à une œuvre, et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et c'est pas à toi à bloquer, à fermer quelque chose que Dieu a prévu déjà dans ce programme, dans ce cheminement de son appel pour toi. Et ça, c'est important. Parce que se marier, avoir des enfants, peut faire partie de l'appel dans lequel le Seigneur t'a mis. Qu'est-ce qu'une maman ? Être maman signifie interpréter les regards, comprendre les silences, pardonner les erreurs, garder les secrets, prévenir les chutes et sécher les larmes de son enfant. Ça, c'est quelque chose de divin, de spirituel, de quelque chose qui fait partie intégrante d'une maman. C'est comprendre les silences. Interpréter les regards. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir votre maman quand vous étiez petit et ça ne va pas bien, vous vient vous voir, dit, oula, ça, tu ne vas pas bien. Mince, elle a découvert que ça allait mal. Ça vous est jamais arrivé ça? De voir que votre maman, rien qu'au regard, elle sait si ça va ou si ça ne va pas chez toi. Ça, c'est le don d'une mère. Alors, le père est capable de le faire aussi, mais à un certain degré, vous voyez. À un moment donné, il va passer, ça va mon fils? Oui, oui, c'est bon. Puis on continue. Mais en fait, finalement, juste au regard, la mère dit, non, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'elle comprend les silences aussi. Il y a des moments où tu vas avancer, mais il ne va rien dire, il va rentrer dans sa chambre. Ouh là là, pourquoi il ne dit rien? Qu'est-ce qui se passe? Parfois même, ces silences-là, elle va les garder pour elle. Et elle va, comme c'est une femme de prière, une maman, elle va prier pour son enfant. Alors qu'il est en silence, alors qu'il ne dit rien. Parce que peut-être dans son cœur, il y a déjà des soucis qui prennent place. Puis capable de pardonner les erreurs. Une maman, c'est garder les secrets. Confidence. Une relation particulière entre la mère et la fille, entre le père et le fils. Il y a peut-être quelque chose parfois qui va faire que il va y avoir un secret qui va être entre eux. Quelque chose de particulier. Prévenir les chutes alors que les tombes. Maman va être capable de pouvoir la relever et dire, allez, vas-y, t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est ça, une maman. Puis une maman aussi sèche les larmes de son enfant. Des fois, elle ne va pas faire grand-chose, elle ne va pas dire grand-chose, elle va juste sécher les larmes. Ça sera largement suffisant, ça en dira plus que 10 phrases. Mais ça donnera l'essentiel, ça montrera l'affection qu'elle a pour son enfant. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. Je voudrais terminer avec ce verset. Je crois que c'est un verset qui m'a vraiment, vraiment interpellé quand j'ai préparé mon message, que j'étais en train de finaliser ce texte. J'avais déjà ce verset tout à fait au début de ma prédication, j'ai dit je le mettrai à la fin. Alors que Jésus a été fouetté de 40 coups moins un. Alors que Jésus a été craché, on lui a craché au visage, qu'on l'a insulté de tous les maux. Alors que Jésus, on l'a rejeté, que les disciples l'ont renié. Alors que la parole de Dieu nous dit que les Romains étaient là, s'étaient délectés de l'avoir fouetté, de l'avoir mis en sang. Et tout son corps était rempli de sang, de ses coups de fouet. Et monté le chemin de la Via Dolorosa, il allait être condamné à mort et tout le monde attendait ce spectacle. Il y avait une haine autour, il y avait un climat de mort qui attendait le maître. Ces moments-là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser, je ne sais pas ce que vous aurez pensé à la place de Jésus. Peut-être que vous aurez été là en disant « j'espère que je vais peut-être éviter la mort, je vais peut-être éviter la croix. » Parce qu'il savait très bien qu'en mourant sur cette croix, il allait agoniser pendant des heures. Et là, il se retrouvait là, finalement, sur le chemin de la mort où tout le monde était contre lui. Et alors qu'il se retrouve dans ce climat de mort, dans ce climat de haine, d'indifférence, alors qu'il a toujours apporté la vie là où il y avait la mort, la paix là où il y avait la guerre, il a toujours apporté la bénédiction là où il avait la malédiction, là maintenant, à ce moment-là, il est entouré de haine. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, et ce texte c'est dans Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à ce moment-là, dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Alors qu'il était à quelques minutes de monter à la croix, d'être crucifié, il pense à une seule personne à ce moment-là. Il pense à sa mère. Où il allait la placer, la confier, celle qu'il avait mise au monde, naturellement, comme nous, avant de monter miraculeusement vers le ciel. Il a pensé à sa mère terrestre. Parce que pour lui, cette mère terrestre avait de la valeur. C'est elle qui l'avait mis en vie, qui l'avait mis au monde. Et ce texte est bouleversant quand vous savez que quelques minutes après, il allait monter sur cette croix. Vous faire réaliser que finalement, une mère a de la valeur à nos yeux. Combien c'est difficile quand il y a eu des malentendus, il y a eu des troubles, il y a eu des circonstances, des situations douloureuses, difficiles. Certains frères et sœurs se sont retrouvés à être dans la douleur parce qu'ils ont grandi dans un foyer où ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, tu es chrétien, mais il y a comme quelque chose qui se bouscule en toi parce que tu aimerais peut-être te rapprocher de ta mère. Tu aimerais te rapprocher de ta maman, peut-être que... Mais il y a comme quelque chose qui te retient. Quand on sait que la parole de Dieu nous montre la valeur d'une maman, que nous puissions réaliser ces quelques paroles ce matin. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. Je voudrais faire trois appels ce matin. Le premier, je voudrais prier pour... Ce sera une prière collective, mais là où tu es, ma sœur, si ce message t'interpelle, si cet appel t'interpelle, alors je te demanderai de te lever à ta place. Premier appel, ce serait pour les épouses qui sont stériles. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir d'enfants pour X et autres raisons. Dieu sait toutes choses. La question n'est pas de savoir pourquoi tu ne l'as pas, c'est juste de te lever, de chercher la face de Dieu, de crier au Seigneur. Cette femme tout à l'heure me disait que pendant 9 ans, elle a prié, Dieu lui a accordé. Il y a peut-être quelque chose que Dieu veut te dire au travers de cette stérilité. Et c'est peut-être l'occasion ce matin de dire, voilà Seigneur, je veux me lever, je veux que tu me parles. Je veux briser cette stérilité afin d'enfanter, de donner la vie. S'il y a quelqu'un ici dans ce lieu, alors tu te lèves. Voilà, déjà plusieurs se lèvent. Je voudrais faire un deuxième appel. Pour les enfants qui n'arrivent pas à honorer leur maman. Parce qu'il y a toute une histoire, il y a tout un passé. Peut-être un passé plus ou moins grave, mais que vraiment le Seigneur vienne prendre la victoire sur ta vie ce matin. Et que tu puisses reconsidérer cette position devant Dieu. Que vraiment le Seigneur vienne briser peut-être toute tension, toute relation tendue avec ta maman, peut-être même avec ton papa. Que la victoire prenne place ici dans ce lieu ce matin. Alors je te demanderai de te lever afin de pouvoir briser cette puissance ténébreuse, démoniaque, diabolique, et que tu te retrouves en connexion avec tes parents. Troisième appel que je voudrais faire ce matin, alors que vous vous levez, je voudrais prier pour les mères qui ont besoin d'être soutenues, encouragées, bénies par Dieu. Parce que c'est un véritable ministère d'être maman. Nous avons vu que c'est un défi énorme jour après jour. Un défi professionnel parce que bien souvent, et en région parisienne, elles partent travailler toute la journée. Elles reviennent à la maison, elles ont encore ce travail. Elles ont encore toute une activité, elles ont un deuxième job à la maison. Il y a un grand défi qui est là et je crois que le Seigneur veut vraiment fortifier plusieurs mamans au milieu de nous ce matin. Toi qui te sens concerné, peut-être même fatigué, las parfois, parce que tu te retrouves face à des défis. Tu te retrouves peut-être même face à un ado, un jeune, un fils, une fille, adote, et tu te retrouves vraiment en conflit avec elle parce que tu n'arrives pas, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Il y a des moments délicats aussi, peut-être aussi que tu vois ta fille partir et vivre sa vie maintenant et se marier. Dans ton cœur, tu n'arrives pas à te détacher de cette chose-là. Oh, ce sont parfois des véritables défis. Et tu as besoin de la puissance de Dieu sur ta vie. Tu as besoin juste aussi peut-être d'être soutenu en tant que mère. Parce que jour après jour, le Seigneur te bénit, mais tu voudrais rester dans cette bénédiction. Le Seigneur est avec toi, il veut t'encourager, mais il veut t'amener plus loin. Alors, c'est l'occasion peut-être ce matin qu'on puisse prier pour toi maintenant. Alors lève-toi là où tu es. Que le Seigneur vienne agir sur ta vie. Continue de te fortifier. Continue de te renouveler dans ta vie. Continue de te bénir, de t'enrouler de sa présence, de t'entourer par devant, par derrière. Alléluia. Amen. Alors que plusieurs se sont levés, si tu veux le faire encore, n'hésite pas, on va prier maintenant ensemble. On va demander au Seigneur d'agir. Alléluia. On va demander au Seigneur de se manifester sur votre vie. Amen. Alléluia. Continuez à vous lever, je vais prier pour vous maintenant. Amen. que le Seigneur pose sa main sur ton cœur. Alléluia, que Dieu vienne agir. Toi qui es maman ici dans ce lieu, tu es devant des défis jour après jour. Tu es devant des défis spirituels, mais le Seigneur est là, veut t'accompagner. Je veux te prier pour toi qui est mère. Alléluia, que le Seigneur t'entoure par devant, par derrière. Parce que parfois il y a des défis d'un mari inconverti, d'enfants parfois inconvertis qui ne comprennent pas ta foi, qui ne comprennent pas cet engagement avec Dieu. Que le Seigneur te fortifie, t'aide, que le Seigneur t'entoure de ses grâces, que le Seigneur t'encourage jour après jour, que sa parole fasse son œuvre dans ton cœur. Alléluia, parce que Dieu t'aime, parce que le Seigneur t'aime. Alléluia. Parce que Dieu veut agir dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Je veux prier aussi peut-être pour les enfants qui se retrouvent peut-être en délicatesse avec leurs parents. Peut-être une situation de confusion, de trouble, parfois de conflit. Seigneur, pose ta main. Agis dans ces cœurs. Alléluia. Seigneur, tu brises, Seigneur, toute œuvre, Seigneur, de ténèbres, tout conflit, Seigneur Jésus interne. Tu viens agir, tu viens briser, Seigneur, ces œuvres, Seigneur Jésus, malsaines, afin qu'il puisse y avoir une puissance de réconciliation. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour que tu étendes tes mains. Et je veux te prier aussi pour, Seigneur Jésus, ces mamans qui, peut-être atteintes de stérilité, ont besoin d'une guérison dans leur corps. Seigneur, viens les toucher maintenant. Viens agir dans leur vie. Alléluia. Viens te manifester de manière puissante comme tu l'as fait pour Anne. Seigneur, tu veux le faire pour ma sœur, Seigneur, dans ce lieu, ce matin, amen. Tu veux agir dans ces vies, alléluia. Tu veux te révéler avec puissance, Seigneur, que le miracle de Dieu s'opère maintenant dans ce corps. Comme tu l'as fait pour cette sœur qui m'a rendu témoignage tout à l'heure, tu veux le faire maintenant, Seigneur, pour cette vie. Au nom de Jésus, alléluia. Restons dans le recueillement et j'inviterai frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte-Seine à s'approcher au devant maintenant.